Bonjour à tous, nous sommes devant la New York Criminal Court, la cour pénale de Manhattan, bardée de...
austère,
bardé d'échafaudages. À l'intérieur, c'est guère mieux. Hein. C'est des boiseries jaunâtres, du mobilier hors d'âge, des lumières blafardes. Et à vrai dire, je pensais qu'il y aurait un peu plus de monde dans le parc aujourd'hui, comme il y en avait lundi, au premier jour du procès.
Il y avait quand même quelques manifestants de chaque camp, mais les plus visibles, comme d'habitude, les plus vocaux, comme on dit ici, c'était les manifestants trumpistes. Bon, et ils sont venus soutenir leur président pour le premier jour de ce procès.
Et dans ce bâtiment peu remarquable, il se passe quelque chose d'inédit. Donald Trump, ancien président américain, devant la justice pénale. Donald Trump qui fait campagne depuis le palais de justice à 6 mois et demi de l'élection présidentielle. Quand la justice et la politique se télescopent, on est réunis à Manhattan pour en parler. Washington DC, saison 2, épisode 3.
We have a president who is a great danger to democracy.
Democracy is on the ballot. Your freedom is on the ballot.
Washington, D.C.
Joe Biden is a low IQ individual. He is truly the worst and most corrupt president in the history of our country.
Le podcast des médias francophones publics.
I'm Joe Biden, damn proud of it.
I will prevent World War III.
So are you with me?
Washington DC.
Bonjour, je suis Jordan Davis de la RTS.
Bonjour, je suis Guillaume Nodin de RFI.
Je suis Frédéric Arnould de Radio-Canada.
Sébastien Paour de France Info.
Sonia Dridi de la RTBF. Sonia, t'es où ?
Oui, bonjour, je suis dans le Maryland, à deux pas de la Virginie occidentale. Et je vois aussi beaucoup de drapeaux Trump, parce qu'ici, il y a beaucoup de Trumpistes. Donc voilà, moi aussi, j'ai eu le droit aux Trumpistes ces derniers jours.
Et justement, il y avait d'énormes... Ces drapeaux étaient gigantesques.
Ah, moi, j'ai adoré ce monsieur avec son écharpe en crochet, blanche, bleu et rouge, avec écrit Trump
2024,
sur un côté, hein. MAGA again. Il y avait marqué MAGA again, ce qui reviendrait à dire Make America Great Again again. Donc faisons revenir Donald Trump à la Maison Blanche. Très joli tricot, très joli écharpe.
Ils étaient là justement parce que Donald Trump se présentait au premier jour de ce procès. Frédéric Arnould, rappelons-nous juste un peu de quoi il s'agit.
Alors, ça remonte en fait à une relation extra-conjugale qu'aurait eu Donald Trump en 2006. Donc, ça commence à dater, évidemment. Et 10 ans plus tard, pour être sûr que cette affaire ne sorte pas en plein milieu de la campagne présidentielle, ben, Donald Trump aurait en fait demandé à son avocat, à son fixeur, la Michael Cohen, écoutez, est-ce qu'on pourrait acheter son silence avec un petit 130 000 $, comme ça, vite fait, bien fait? Bon, ça n'est pas très catholique, mais c'est pas quelque chose de forcément illégal. Le problème, c'est que ce qui a été fait, c'est que pour essayer de masquer justement ça, Donald Trump, au sein de son organisation, la Trump Organization, aurait décidé de maquiller la comptabilité pour que ça n'apparaisse nulle part. Et là, vraiment, c'est vraiment le cœur de cette affaire où on se retrouve avec d'abord un ex-président des États-Unis, mais en plus un candidat républicain pour la présidentielle de 2024. Il fait face à 34 chefs d'accusation, dont falsification de documents comptables.
Oui, parce qu'il commence à rembourser Trump, son avocat Michael Cohen. À partir du moment où il entre à la Maison-Blanche en janvier 2017, il commence à lui faire des chèques, 9 chèques, je crois. Ils sont documentés, hein, il y a même des photos. Michael Cohen les a produites, ces photos. Il a fait de la prison pour ça depuis. Donc on sait qu'évidemment, le problème, ça n'est pas d'avoir eu une relation extra-conjugale avec une ancienne actrice porno, c'est d'avoir tenté de maquiller son remboursement dans ses comptes de la Trump Organization.
Et le parquet va faire de ces délit comptable, entre guillemets, quelque chose de plus grave, un felony. C'est pour ça qu'il est justement dans la cour pénale en face de nous, au 10e étage. Parce que là, le parquet dit que c'était une tentative d'interférer dans l'élection, parce que c'était justement pour éviter que tout ça ne sorte avant l'élection. C'est ça le lien qu'ils vont essayer de faire, et ce qui va donner une gravité supplémentaire à ces chefs d'accusation. Sonia ?
Oui, on rappelle que même s'il est condamné effectivement à 4 ans de prison, il pourra toujours être candidat, voire même être élu président en prison.
Effectivement, pas de peine d'inéligibilité pour des crimes aux États-Unis. Il faut bien le rappeler parce que ce n'est pas le cas dans la plupart de nos pays d'ailleurs, donc c'est possible. En ce moment-là, jour 2, il n'y a pas encore les plaidoiries. Ils sont en train de choisir les membres du jury. C'est un processus qu'on appelle « voir dire ». En français, c'est dans le texte, mais c'est du vieux français qui veut dire « dire la vérité ». Frédéric Arnoult, tu as fait un super papier sur ce processus. Explique-nous un peu ce qui se passe là-dedans.
Alors, tout le monde connaît Donald Trump. Tout le monde a des opinions, tout le monde a des préjugés favorables ou défavorables. Et en plus, ici, on est à Manhattan. Il y a 12% à peu près des électeurs de Manhattan qui ont voté pour Donald Trump la dernière fois. On s'entend qu'il n'est pas en terrain très ami. Et donc, il faut quand même trouver, parmi des centaines et des centaines de candidats jurés, des gens qui vont être capables de mettre de côté ces préjugés-là et d'avoir un jugement impartial sur ce qu'a fait ou ce que n'aurait pas fait Donald Trump. Alors, c'est compliqué. Et pour arriver à ça, ben, évidemment, ils se font cuisiner, ces candidats jurés-là. Parce que, bon, on veut savoir un petit peu à quelle enseigne ils logent. Est-ce qu'ils ont un penchant politique, par exemple? Est-ce qu'ils regardent Fox News ou plutôt CNN? Est-ce qu'ils ont déjà participé, eux ou leur famille, à des événements politiques pro-Trump ou anti-Trump? Donc, il faut passer à travers ça. C'est au peigne fin. On va aussi vérifier sur les pages de médias sociaux. Et à la fin, ben, il faut qu'on s'entende, côté poursuite et côté défense, à avoir une liste complète de 12 jurés avec 6 suppléants. Et ça peut durer longtemps, ce petit jeu de recherche des perles rares.
Sachant qu'on leur demande pas, dans ce questionnaire de 42 questions, pour qui ils ont voté dans le passé, on leur demande simplement s'ils, par exemple, ils sont adhérents aux comptes des réseaux sociaux, des médias qui sont ceux de Trump. On leur demande, par exemple, s'ils ont déjà été effectivement à un événement de campagne de Trump, mais leurs opinions politiques, ils peuvent les garder pour eux.
La personne idéale, c'est une personne qui aurait été dans le coma pendant 12 ans, qui se réveille en pleine forme et qui n'aurait aucune opinion sur ce qui s'est passé lors des 3 dernières élections présidentielles.
Je trouve ça aussi intéressant, on leur demande s'ils sont quand même membres des Proud Boys ou d'un groupe comme ça de suprémacistes blancs ou de QAnon, exactement.
Ce qu'il faut dire, c'est que les deux camps ont chacun la possibilité de récuser 10 personnes sans aucune explication, sans avoir à se justifier devant le juge Merchan qui préside ces débats. Alors on peut supposer que le camp Trump va plutôt choisir des hommes un peu sous-diplômés qui s'informent sur des médias conservateurs et que le camp l'accusation, les procureurs vont plutôt choisir des femmes, elles plutôt éduquées, pour pouvoir évidemment, tant qu'à faire condamner Donald Trump.
Le jury populaire est censé être gage d'impartialité dans le système américain. Donald Trump pense que c'est truqué contre lui, il veut utiliser ça comme une tribune politique, il le dit à chaque fois qu'il entre et qu'il sort de la salle d'audience au 10e étage devant les caméras, il s'arrête et il s'exprime.
C'est une persécution politique. On n'a jamais vu un truc pareil. Ce procès n'aurait jamais dû avoir lieu. C'est une attaque contre l'Amérique et l'Amérique est en faillite. Notre pays est dirigé par un homme incompétent. Il est impliqué dans cette affaire. En fait, c'est une attaque contre un opposant politique. Voilà ce que c'est. Je suis très fier d'être ici.
Finalement, c'est un écho de ce qu'il dit quand il est en meeting politique,
en
Guillaume.
En fait, la campagne de Donald Trump, ce sont les procès. Il y a sa campagne. La campagne est un petit peu suspendue parce qu'il va devoir être là pendant 6 semaines, sauf certains jours. Mais les procès ne perturbent absolument pas sa campagne. Ces procès sont sa campagne. Il entend profiter largement de cette tribune qui lui est offerte pour continuer à faire campagne sur ce thème de la persécution politique, de la chasse aux sorcières, et qui va continuer à convaincre ses électeurs.
Il l'a dit d'ailleurs quand il a quitté le palais de justice pour la première journée d'audience. Il a dit « je ne devrais pas être là, je devrais pouvoir aller en Géorgie, en Floride, en Caroline du Nord, faire campagne et pas du tout être obligé d'être ici comme le juge me l'impose. J'ai un vrai problème avec le juge Merchan », a-t-il dit.
Il a même dit que je devrais pouvoir assister à la remise des diplômes de mon fils. Il dit « on a un vrai problème ». C'est assez étonnant. Normalement, un avocat ne va pas conseiller à son client d'attaquer le juge. Est-ce que Donald Trump est finalement un justiciable comme un autre ou est-ce qu'il est plutôt privilégié à cet égard?
C'est ce qu'a cherché à faire valoir le juge au premier jour du procès. Il l'a appelé Monsieur Trump. Il n'a pas dit Monsieur le Président Trump comme on doit le faire avec un ancien président. Il l'a ramené au rang d'un justiciable lambda.
Et d'ailleurs, Donald Trump a horreur de ça, c'est très connu. Il tient absolument à son titre de President Trump. C'est comme ça qu'il veut qu'on l'appelle.
Sonia Dridi.
Oui, le juge qui a plusieurs fois montré qu'il perdait patience envers Donald Trump et même ses avocats. Mais effectivement, par rapport à ce que vous disiez, ce qui est quand même assez hallucinant, c'est qu'on voit qu'après chaque passage au tribunal de Donald Trump, et on le voit, il en arrive toujours à faire une petite sortie, un petit discours, eh bien, il monte encore plus dans les sondages côté républicain. Donc clairement, c'est une tribune politique qui marche très très bien pour lui.
Il semble que ce juge ne va pas me permettre d'échapper à cette arnaque. C'est un procès frauduleux. C'est une chasse aux sorcières politiques. J'ai un vrai problème avec ce juge, comme avec beaucoup de choses liées à ce procès, y compris le procureur. Je ne peux pas aller en Géorgie, ni en Floride ou en Caroline du Nord, alors que je devrais y faire campagne. C'est parfait pour la gauche radicale démocrate, c'est exactement ce qu'ils veulent. C'est de l'ingérence électorale, c'est tout.
Donald Trump aussi attaque la famille du juge, il attaque son ex-avocat, qui sera le témoin clé justement du ministère public pendant ce procès. Le juge lui a ordonné de ne pas faire ça. Le parquet a demandé qu'il soit cité pour outrage à la cour. Frédéric Arnaud.
C'est un homme qui aime provoquer, qui aime tester les limites du tolérable. Et ce qui est fascinant depuis le début du procès, c'est que Donald Trump, il y a deux mondes là. Il y a le Trump sur les réseaux sociaux et dans ses meetings. Et il y a le Donald Trump qui est en cours, qui est là, qui est renfrogné, qui n'en mène pas large, qui, à la limite même, était à la veille peut-être même de s'endormir un petit peu, tellement il s'ennuyait profondément. Donc on a vraiment un Donald Trump qui est aux antipodes de ce qu'il est avec ses partisans. Et c'est beaucoup moins facile, évidemment, de commencer à insulter un juge quand on est face à lui, ou de commencer à parler et lancer des gros mots par rapport au procureur qui le poursuit. Donc, dans le fond, c'est pas une mauvaise chose pour lui que ce ne soit pas télévisé. Parce qu'imaginez les partisans qui verraient leur gourou, leur personnage adoré, complètement effacé, endormi et pas du tout combatif.
En train de piquer du nez. Les journalistes qui étaient à l'intérieur ont noté que pendant l'audience, il piquait du nez. Et ce que tu disais, Frédéric, est tout à fait juste. C'est là qu'on voit toute la différence entre la vraie vie et les réseaux sociaux.
Est-ce que ce serait le procès du siècle, de ce siècle, un ancien président assis là, qui de temps en temps voudrait manifester de la colère et, comme vous l'avez dit, ne peut pas le faire parce qu'il est dans une salle de tribunal. Enfin voilà, sans doute que ce serait encore plus médiatisé si c'était télévisé, évidemment. Mm-hmm.
Il y a trois autres affaires pénales qui attendent Donald Trump. Deux devant le parquet fédéral, à Washington DC, pour sa tentative de renverser l'élection le 6 janvier 2021. L'affaire en Floride, pour les documents qu'il avait subtilisés, gardés avec lui à Mar-a-Lago. Il y a aussi en Géorgie, au niveau de l'État de la Géorgie, Donald Trump ferait partie d'un réseau criminel qui aurait tenté là de subvertir les résultats dans cet État-là. Sonia, finalement, tout le monde attendait qu'il y ait un procès au moins cette année, en fait.
Oui, et c'est ça qui était fort quand même de voir enfin Donald Trump sur le banc des accusés. C'est parce qu'on en parle de ces procès depuis des mois. D'ailleurs, c'est le premier qui devrait s'ouvrir à la base, c'était celui sur sa tentative de renverser l'élection présidentielle de 2020. Ça devait s'ouvrir en mars, mais ses avocats ont réussi à le faire repousser, notamment en disant qu'ils avaient plus de temps pour examiner tout un tas de preuves qu'ils venaient de recevoir, tout un tas de documents. Le juge leur a accordé en mars donc un report de ce procès. Ils ont vraiment essayé de faire en sorte que ce procès ait lieu si possible après l'élection présidentielle, ou au moins après la décision qui va être prise fin avril par la Cour suprême sur l'immunité de l'ancien président.
C'est sa stratégie finalement de repousser jusqu'après les élections, par exemple au niveau fédéral. Président, il pourrait dire au département de la justice, arrêtez les enquêtes, arrêtez d'enquêter sur moi, arrêtez les poursuites contre moi.
Il peut s'auto-amnistier, tout simplement. C'est exactement ce qui peut arriver. Et à ce stade, on peut dire que Stormy Daniels a réussi là où Merrick Garland a échoué, c'est-à-dire à traîner Donald Trump devant la justice.
Merrick Garland, le procureur général des États-Unis, chef de la justice américaine. Frédéric.
Justement, on dit que sa stratégie, c'était delay, delay, delay. On veut retarder, retarder, retarder. Là, maintenant, ça a commencé. Il dit, je vais en profiter. Ils vont parler de moi tous les jours. Puis ça va être très porteur pour moi, etc. Oui, mais pas forcément. Parce que, d'abord, dans cette affaire que personne n'a vraiment suivi, cette affaire un peu sordide de paiement à une ancienne actrice porno, c'est que tout ça va ressortir à la surface. Ça va sortir dans tous les médias, les témoignages vont être beaucoup plus publicisés, on va regarder ça. Et je ne suis pas sûr que Donald Trump fait un très très bon calcul en disant ça va être, ils vont parler de moi. Parce qu'il y a encore des électeurs un peu mous, modérés, indépendants qui vont se dire « Ah, il a vraiment fait ça ?» Ouais, là, je ne suis plus très sûr en fait que je vais vraiment prononcer en faveur de Donald Trump lors de l'élection. Quoi.
C'est vrai, cette élection qui se joue un peu à la marge, est-ce qu'il y a... 3 électrices indépendantes dans l'Arizona, dans un état où ça s'est joué à 10 000 voix, enfin, qui vont peut-être se dire « Ah, cette affaire de Stormy Daniels, il trompait sa femme, ça me met mal à l'aise, ça sera peut-être juste la goutte de trop qui suffirait pour lui ravir la victoire, absolument. »
Venant d'un président des États-Unis, même si c'était consensuel, franchement, moi j'ai des exigences morales très fortes, car les gens s'inspirent de ce que font les dirigeants. Un dirigeant paye des dessous de table, il finance la corruption avec l'argent de ses donateurs. Moi j'ai un énorme problème avec tout ça, et je ne pense pas qu'il devrait être président.
Peu importe qui vous êtes, je pourrais être la meilleure personne du monde, si je fais une erreur, je dois l'admettre. On ne peut pas laisser des gens qui sont entre guillemets au-dessus de nous faire des erreurs sans être pénalisé.
Si Donald Trump est condamné, admettons, est-ce que ça va vraiment avoir un impact ?
En tout cas, les deux candidats qui vont s'affronter en mois de novembre, l'un est devenu candidat mais aussi accusé, pendant que l'autre continue d'être candidat et président en exercice. Et d'ailleurs, à l'issue de la première journée de procès, le lundi 15 avril, on a bien entendu Biden... dans un message qui résumait la journée, appelé à un cessez-le-feu au Proche-Orient pour libérer les otages, pour éviter un embrasement avec l'Iran qui a frappé Israël quelques jours auparavant. Et dans le même temps, à quelques heures d'intervalle, Trump qui quittait le tribunal ici et qui disait « c'est scandaleux, on m'empêche de faire campagne, tout ça c'est une chasse aux sorcières », enfin les termes qu'on a l'habitude d'entendre dans sa bouche. Et donc on a clairement un candidat, président sortant, et de l'autre, un accusé qui va tenter d'être candidat encore en faisant campagne le week-end et peut-être le mercredi, s'il y a des ruptures de séance le mercredi, mais en tout cas qui va être très, très limité dans sa campagne électorale.
Washington, D.C.
Il y avait les Trumpistes les plus convaincus ici qui s'habillent en Donald Trump, qui mettent leur tricot, leurs écharpes tricotées dans Donald Trump. Accepter, déjà, ils ne croient pas à la légitimité de ce procès, à la légitimité de la justice. Donald Trump fait tout pour miner cette crédibilité. Sonia, cette question de la radicalisation des fans de Donald Trump, c'est quelque chose qui va être une préoccupation pour beaucoup jusqu'à l'élection, Sonia Dridi.
Oui, en effet, finalement, on voit que les partisans de Donald Trump, pour certains, sont toujours aussi extrêmes dans leur langage, notamment. Et c'est vrai que ça inquiète notamment la communauté du renseignement. J'ai parlé il y a peu avec l'ancien directeur de la CIA, John Brennan, qui me disait clairement être inquiet. Déjà, il se disait complètement effaré de voir des élus républicains, dit-il, malhonnêtes, qu'il connaît pourtant, mais qu'il voit... Qui soutiennent toujours Donald Trump uniquement en raison de leur intérêt politique, et de voir qu'il y a toujours autant de gens qui le soutiennent malgré évidemment tout ce qui s'est passé ces dernières années. Donc je vous laisse l'écouter, lui il est assez inquiet.
La base MAGA, Make America Great Again, de Donald Trump considère que c'est son droit de continuer la violence déjà perpétrée le 6 janvier 2021. Si Donald Trump perd l'élection, il pourrait y avoir de très violentes réactions à cette défaite. Et malheureusement, Donald Trump et certains de ses partisans et proches conseillers continuent d'utiliser un langage explicite qui incite à la violence. Donald Trump a par exemple évoqué un bain de sang si Joe Biden était réélu. Cela m'inquiète, ainsi que d'autres professionnels de la sécurité nationale.
Super, c'est une super pioche, Sonia. Et finalement, ça témoigne aussi du fait qu'on est dans un contexte assez dingue tout de même. J'ai été frappé le premier jour du procès. Cette espèce de camion gigantesque, un pick-up truck noir.
Pick-up truck énorme.
Qui balançait la musique, la sono d'enfer.
Grosse voiture,
klaxon de train.
Totalement. Et
on aurait dit un train américain qui traverse les grandes plaines, là, en plein milieu de Manhattan.
Mais surtout, c'était à l'arrière. L'image d'un Joe Biden bâillonné, ligoté. C'est une image violente et c'est une violence, finalement, je pense, qui est en filigrane. C'est un contexte général assez particulier.
Oui, qui colle à la rhétorique de Donald Trump, d'ailleurs, son public, enfin en tout cas sa base continue de suivre le gourou, de suivre ses discours, de reprendre ses termes violents et toute cette terminologie ultra-violente. Il a dit dictateur, il a parlé de bain de sang, enfin, moi je suis pas étonné par ce genre d'image chez les spectateurs, les fans de Donald Trump.
Oui, il y avait aussi hier, il y avait aussi au premier jour du procès des drapeaux Joe and the Ho must go. Je vous le traduis pas, c'est un truc assez vulgaire qui concerne, je suppose, Kamala Harris.
Et misogyne concernant Kamala Harris, absolument. Voilà.
Mais c'est sûr que ces partisans si dévoués à Donald Trump, eux, ils espèrent tellement. Et ça, c'est, on parlait de l'impact possible de ce procès-là. C'est qu'ils espèrent tellement que, dans le fond, Donald Trump ne serait pas reconnu coupable ou qu'il y ait un non-lieu, etc. Parce que là, ce serait quand même une certaine victoire pour Donald Trump. Imaginez, il pourra dire, vous voyez, ils m'ont poursuivi. Eh bien, je n'ai rien fait de mal. Et ça, s'il dit toujours, I didn't do anything wrong, you know? Et tout le monde dit la même chose parmi ses partisans. Et si jamais il parvenait à s'en sortir, et c'est probable parce que dans le fond, dans les quatre procès dont on parlait, c'est celui qui est un peu moins solide au niveau de l'argumentaire de démontrer qu'il a bel et bien agi pour interférer dans le processus électoral de 2016. Donc si jamais il parvenait à s'en sortir, il y aura un gain politique assez énorme pour la suite des choses. Donc là, il y a tout un pari qu'a fait Alvin Bragg.
Bragg, procureur démocrate, qui a été élu en 2021 et que Trump déteste par-dessus tout.
Il doit être dans ses petits souliers pendant les prochaines semaines parce qu'il y aura un verdict à un moment donné, probablement vers la mi-juin, si tout va bien. Et là, ça risque de faire l'effet d'une bombe dans un sens ou dans l'autre, évidemment.
C'est le mot de la fin.
Washington DC.
Ben, vivement qu'on se retrouve tous au même endroit.
Ah oui, ça serait bien.
En même temps, ce serait cool pour une fois, non ?
Oui, Jordan, effectivement, ce serait bien que tout le monde soit ensemble la prochaine fois.
Je suis bien placé pour le dire. Bon, l'épisode.
Sonia, tu nous manques.
See you soon.
Bon, l'épisode 4, c'est dans un mois. À bientôt.
À bientôt, salut.
Salut.
See you.
Au revoir.
Le podcast des médias francophones publics. Radio-Canada, Radio France, RTS, RFI, RTBF.